Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. La pandémie de 2020 a généré dans le monde une situation inédite, celle de l'expérience collective d'une grande contraction de liberté. Confinement, couvre-feu, interdiction de réunion, traçage des téléphones, autorisation de sortie, fermeture des frontières, contrôle de l'information pour ne citer que quelques-unes des mesures prises par les gouvernements de la quasi-totalité du globe. Les États ont massivement eu recours à un dispositif juridique d'urgence, appelé état d'urgence, pouvoir exceptionnel ou législation spéciale, selon le terme que chacun a voulu donner. Jusqu'alors cantonné à la lutte antiterroriste, ce dispositif est passé au domaine de la santé publique, franchissant un nouveau seuil, comme ce fut le cas en 2001 avec les attentats du World Trade Center. Assiste-t-on à une dérive autoritaire dans le monde? Peut-on parler de convergence entre régime autoritaire et régime démocratique? Le constat est-il que de plus en plus de régimes politiques se revendiquant libéraux restreignent les libertés individuelles? L'état d'exception s'impose-t-il désormais comme la réponse technique à tous les défis du XXIe siècle? À quand l'état d'urgence environnementale? Notre invitée est Eugénie Mériot, politiste et juriste, maîtresse de conférences en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, auteure de Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence aux éditions Le Cavalier Bleu. Eugénie Mériot, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Eugénie Mériot, ma première question, c'est finalement pourquoi cet ouvrage et peut-être pour commencer une définition de l'état d'exception, l'état d'urgence. État d'exception, état d'urgence, c'est la même chose?
Alors, l'état d'urgence est une déclinaison spéciale de l'état d'exception. L'état d'exception, c'est un mode de gouvernement qui est extrêmement ancien. C'était, au temps de la République romaine, c'était la dictature, ce qu'on appelait la dictature. Donc, dès lors qu'il y avait des troubles à Rome, on pouvait désigner un dictateur pour une période très très courte de 6 mois. Et ce dictateur, ensuite, rétablissait l'ordre dans la cité et puis revenait à son champ. L'exemple paradigmatique, c'est Cincinnatus qui travaillait son champ. Les consuls, le Sénat et les consuls sont venus le chercher pour lui demander d'être dictateur, de rétablir la paix. En 12 jours à peine, il a rétabli la paix, il est retourné à son champ. Donc c'est ça, l'état d'exception, c'est cette dictature qui permet de sauver un régime lorsqu'il y a des périls, généralement des menaces externes sur cette république. Alors évidemment, l'exemple de Rome, il est intéressant parce que finalement, c'est bien la dictature de Jules César qui met fin à la République romaine et qui plonge Rome dans l'Empire et la dictature permanente. Et donc, il y a une différence très très nette entre la dictature de commissaire et la dictature qui va révolutionnaire, qui va changer de régime. Et toute la question est là, dans l'état d'exception, est-ce que c'est un moyen de sauvegarder la démocratie, la République, ou est-ce que, au contraire, c'est le sas de passage de la démocratie vers la dictature? Alors ça, c'est l'état d'exception de manière dans toute l'histoire que nous connaissons. Et puis, l'état d'urgence, lui, c'est une déclinaison particulière, comme je l'ai dit, qui nous vient de la pensée philosophique libérale à partir des Lumières, à partir du moment où on commence à penser les droits humains comme étant des droits naturels attachés aux personnes humaines. On va penser cet état d'urgence comme la possibilité de suspendre pendant un temps donné ses libertés, ses droits et libertés individuelles. Donc c'est lié à la philosophie des Lumières et c'est une nouvelle manière de penser cet état d'exception. Et dans un premier temps, cet état d'urgence, il a été pensé non pas seulement comme ayant une dimension temporelle, c'est-à-dire un état d'urgence qui doit être temporaire de 6 mois, mais aussi comme ayant une dimension géographique, géopolitique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, parce qu'on pense souvent à l'état d'urgence uniquement comme une suspension temporaire. Mmh. Mais en fait, c'est d'abord une suspension sur des territoires donnés. Et l'état d'urgence, ça a d'abord été le moyen pour les empires de gouverner leurs colonies. Donc l'état d'urgence, d'abord, s'applique à des corps particuliers sur des territoires particuliers et on peut tracer une généalogie coloniale de l'état d'urgence avec un continuum très très clair, très très net qui se dessine aussi dans l'histoire de l'état français avec un retour en métropole de cet état d'urgence coloniale à la faveur de la dislocation de l'Empire français.
Alors, je me permet d'insister sur la notion de gouvernance coloniale, hein, l'outil, enfin, l'état d'urgence, l'état d'exception, d'abord pensé comme outil de gouvernance coloniale. Vous évoquez, Eugénie Mériot, un mécanisme finalement qui est assez pervers, d'inclusion-exclusion, et c'est d'une certaine manière toute la pensée libérale d'une époque, et peut-être toujours maintenant, que finalement vous dénoncez.
Oui, absolument. Si on met en parallèle, prenons l'exemple français, si on met en parallèle le développement des droits et libertés en France avec le développement de l'état d'urgence dans les colonies, c'est très très net que ce parallélisme, et c'était l'hypothèse de travail que je me suis donnée dans ce livre, c'est une forme de dépendance, une forme d'interdépendance, un parallélisme très très fort qui fait apparaître une corrélation et qui finalement, c'est la conclusion de mon livre, est une causalité. C'est-à-dire, bon, prenons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la Révolution française et nous avons la rédaction de cette déclaration
1789.
À l'été 1789, absolument. Mais on suspend cette élaboration pour faire adopter une loi martiale qui sera ensuite mise en œuvre au Champ de Mars avant d'adopter la première Constitution française qui fera rentrer dans le droit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisque ce sera le préambule de cette Constitution de 1791. Donc déjà, dès le départ, à partir du moment où on pense les droits et libertés, on les pense avec des suspensions. Et c'est la même chose aux États-Unis, donc, qui sont les colonies nord-américaines à ce moment-là, et c'est la même chose au Royaume-Uni. Et on peut tracer comme ça cette interdépendance, par exemple au XIXe siècle, qui est la Troisième République. C'est vraiment le grand moment des droits et libertés. Nous avons la loi sur la liberté d'association, la laïcité, la grande loi sur la liberté de la presse. Mais la même assemblée qui vote la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse est aussi la même assemblée qui, à un mois d'intervalle, vote la généralisation du code de l'indigénat aux colonies. Je rappelle que le code de l'indigénat, c'est mal nommé puisque c'est un ensemble de législations, mais qui permettent aux autorités administratives de placer sous internement administratif, c'est-à-dire des formes de camps de concentration, des personnes sans motif autre qu'un motif administratif de suspicion, de trouble à l'ordre public. Donc on a un parallélisme incroyable et c'est évidemment aussi sous la Ve République le cas, puisque sous la Ve République, nous faisons adopter la loi d'état d'urgence de 1955 pour sortir de la Quatrième République. C'est-à-dire que cette loi d'état d'urgence du 3 avril 1955, qui avait été pensée dans le contexte de la guerre d'Algérie sous la Quatrième République, va ensuite être promulguée sur le territoire métropolitain pour mettre fin à la Quatrième République et la démission de Plimelin et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Donc nous avons ce parallélisme très très net. Et pour revenir à votre question sur cette question de l'inclusion-exclusion, je peux prendre peut-être deux exemples. Le premier exemple, si on reste dans la guerre d'Algérie, c'est celui de la loi du 3 avril 1955. Alors pourquoi l'a-t-on fait adopter? Premièrement, parce que cet état d'urgence, il faut qu'il soit un état d'urgence civil. L'objectif, c'est de faire en sorte que les militaires ne puissent pas prendre le pouvoir en Algérie française. Donc, il faut un état d'urgence qui maintienne le civil. Donc, on va écarter la loi martiale et faire adopter cette loi d'état d'urgence. Mais, en même temps, on ne veut pas que ces événements d'Algérie soient pensés comme faisant partie du droit international, comme étant un conflit international. On le veut l'établir comme du maintien de l'ordre. Donc, c'est là que l'état d'urgence intervient. Pour le faire penser comme un maintien de l'ordre, eh bien, on utilise l'état d'urgence. Sinon, si c'était un conflit international, alors les prisonniers de guerre algériens seraient considérés comme des prisonniers de guerre dans un conflit international et ils seraient donc protégés par les conventions de Genève que l'on vient d'adopter en 1949 et qui protègent les prisonniers de guerre, mais aussi les civils, notamment de la torture. Donc on a un mécanisme très très net d'extension du droit. Donc à mesure qu'on fait du droit international pour protéger les civils en temps de guerre, les États impériaux réagissent dans le même temps pour créer des états d'exception qui vont leur permettre de se soustraire à ce droit international humanitaire auquel ils participent. Et je ne sais pas si vous m'autorisez à prendre un autre exemple.
Tout à fait.
Alors prenons un autre exemple, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 1950. Cette convention, elle est rédigée dans les années 40, à un moment où on est en train de sortir de la Seconde Guerre mondiale. La prise de conscience est très très forte qu'il faut maintenant des moyens de droit international pour garantir les droits et libertés au niveau international. Mais dans le même temps, après la Seconde Guerre mondiale, les colonies sont en train d'être recolonisées par les grands empires, alors qu'elles avaient plus ou moins acquis des formes de liberté. Souvent, il y avait eu des déclarations d'indépendance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les empires sont en train de recoloniser et on va adopter cette constitution pour permettre justement de soustraire ces colonies qui sont en train de se rebeller au droit international et les soumettre à ce nouveau droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui, elle, permet aux empires de suspendre son application avec ce qu'on appelle la clause coloniale. Donc le Royaume-Uni dit, alors nous avons des révoltes anticoloniales dans le monde entier, hein, puisqu'on est en 45, donc ça va d'Aden à Zanzibar, de A à Z, il y a des révoltes coloniales, donc on va avoir cette convention qui va nous permettre de dire, ah, nous ne sommes pas dans du droit international humanitaire, pas de convention de Genève, mais convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et on va pouvoir suspendre son application, c'est la clause coloniale. Et il y a aussi la clause d'état d'urgence, qui sera la clause qui succède à la clause coloniale. Donc là, la généalogie coloniale est très très nette entre l'état d'urgence et la clause coloniale de suspension du droit à la discrétion des États sur leurs colonies.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Eugénie Mériot, c'est un aveu de faiblesse de la part des États qui décident d'états d'exception, d'états d'urgence. Finalement, on peut dire que la vocation d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Et est-ce qu'à contrario, se protéger des citoyens, c'est l'objectif des États qui ont recours à l'état d'exception par crainte? Alors, je pense là au Covid, à la pandémie dont je parlais en introduction. C'est finalement par crainte de ne pas en faire assez, on en fait trop.
Alors, je voudrais citer ici un politiste qui s'appelle Charles Stilley, qui a écrit ce texte sur « L'État est une mafia qui a réussi ». Et l'État s'impose comme un racket de protection, c'est-à-dire qu'il nous protège des menaces qu'il fait lui-même peser sur nous. Donc, ce racket de protection, il est très, très visible, en effet, dans le phénomène État de droit, État d'exception. C'est-à-dire que... Par exemple, en nous entraînant dans la guerre, c'est comme ça que l'État a pu se construire. Et en nous protégeant de cette guerre qu'il nous impose, c'est comme ça qu'il a pu se construire. L'État d'exception, État de droit, c'est exactement la même dialectique. C'est-à-dire qu'en faisant peser un certain nombre de menaces sur les citoyens, l'État va pouvoir justifier l'accroissement de son propre pouvoir. Et on l'a très bien vu pendant le Covid, puisqu'ensuite, une fois que ces lois d'État d'urgence sont adoptées, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet. Et ensuite, elles restent dans le droit commun. Et l'exemple de la France est très, très clair. Clair à cet égard, que ce soit avec les lois antiterroristes ou avec la loi sur l'état d'urgence sanitaire.
Et alors, on l'a vu avec, on reste en France, hein, pour finir cette première partie d'émission, Eugénie Mériot, la loi relative aux Jeux Olympiques du 19 mai 2023, une loi qui teste des mesures de prévention des crimes non encore commis, grâce notamment à la vidéosurveillance algorithmique. Ce sont des mécanismes qui ont été expérimentés par Singapour, Israël ou la Chine avant nous. Dans ce cas de la France, est-ce qu'on peut parler d'une certaine manière d'une dérive autoritaire ?
Oui, on peut parler d'une dérive autoritaire. J'ai d'ailleurs écrit moi-même sur ces thèmes-là. Alors, je préfère le mot illibéral parce que ce qui est attaqué ici, ce sont les droits et libertés. Donc, c'est une dimension particulière. Le caractère autoritaire désigne plutôt la séparation des pouvoirs et l'élection. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à une atteinte très très grave vis-à-vis de la séparation des pouvoirs, même si en effet la direction est prise. Ce qui est intéressant dans l'exemple que vous mentionnez, évidemment, donc c'est premièrement cet effet cliquet, puisque cette loi était d'abord expérimentale, puis finalement elle a été pérennisée. Et puis surtout, c'est la comparaison. En fait, l'éthique de la comparaison, ça renvoie à mes travaux précédents sur dictature et démocratie. En fait, on a tendance à se considérer en France comme le parangon des droits et libertés, de la démocratie dans le monde, c'est la supériorité occidentale. Mais en réalité, on voit très bien que si on gagnerait à se comparer à ces régimes que nous appelons volontiers dictatures, qui nous renvoient en fait le miroir de nos propres dérives, et peut-être un miroir grossissant. Et c'est très très net sur les questions sécuritaires. Il y a des échanges très étroits entre Israël et la France sur ces questions-là, entre la Chine et la France moins, mais il y a très nettement une inspiration. Et d'ailleurs, pendant le Covid, je me souviens très très bien, parce que j'habitais à Singapour à l'époque, pendant le Covid, Covid, au départ, quand il était janvier-février 2020, la France, à l'époque, disait qu'elle était, il n'y avait aucun risque que le Covid arrive en France. Et tous les journaux et toutes les rédactions parlaient de la dystopie chinoise, du régime totalitaire et en quoi le confinement révélait la nature totalitaire de la Chine. Et puis ensuite, en France, on a eu un confinement. Et je rappelle d'ailleurs qu'en Chine, il n'y a pas eu d'état d'urgence. Alors, ni à Singapour d'ailleurs. Alors qu'en France, ça a été le cas. Il n'y a jamais eu d'attestation. Bon, je ne dirais pas qu'en Chine, c'était extrêmement drastique, évidemment, le confinement. Un peu moins à Singapour. Mais en tout cas, là, la comparaison, elle était très, très nette. Et en fait, la Chine, Singapour, Israël illustrent non pas le passé de nos démocraties occidentales, mais peut-être le futur. Donc, quand on a toujours pensé que la fin de l'histoire, c'était, comme l'avait dit Fukuyama, la démocratie occidentale, qui est l'horizon indépassable de l'humanité, et que le monde entier allait progresser vers le régime occidental, on voit bien que cette fin de l'histoire, elle est en train de s'inverser. Et d'ailleurs, il y avait un article très intéressant qui disait « Le Covid, c'est le début de la fin de l'histoire ». Et en fait, cette fin de l'histoire, maintenant, c'est peut-être, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est peut-être la Chine, Singapour, Israël, qui sont les miroirs de notre futur en France.
Alors, je reste un petit peu sur ces thématiques. Il y a plein de sujets hein, oui. que j'aimerais beaucoup approfondir. Malheureusement, bon, là, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Puisque vous évoquez le futur, Eugénie Mariot, le réchauffement climatique, c'est un sujet pour l'état d'exception ?
Justement, l'état d'exception fait face à des nouvelles menaces. Et on voit très très bien à partir du 11 septembre 2001 qu'à partir du moment où ces menaces se globalisent, ou en tout cas la perception de ces menaces se globalise, l'état d'exception se globalise également. Et donc après le 11 septembre 2001, à la demande des États-Unis, il y a une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la résolution 1373, qui est une résolution qui fera date dans l'histoire de l'humanité. C'est une résolution qui demande aux États d'adapter leur législation, tous les États du monde, les 194 États du monde, d'adapter leur législation pour avoir des formes d'état d'urgence antiterroriste. Donc là, on a un état d'urgence qui nourrit un état d'urgence mondial avec des états d'urgence nationaux dans tous les États. Donc, d'ailleurs, Kofi Annan avait dit, c'est la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été la mieux suivie de l'histoire des Nations Unies. C'était très, très étonnant parce qu'évidemment, tous les États se sont engouffrés dans cette brèche. Donc, si demain, nous avons une menace encore plus globale que le terrorisme, c'est-à-dire le réchauffement climatique qui met en péril l'humanité entière, on peut en effet s'attendre à ce qu'il y ait un état d'exception mondialisé qui soit encore plus fort, encore plus net, encore plus drastique que celui antiterroriste que nous avons eu à la suite des événements du 11 septembre 2001.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur justement les États-Unis. Mais pour conclure cette première partie, Eugénie Mariot, est-ce qu'on peut dire que finalement on assiste à une banalisation du recours à l'état d'urgence ? Est-ce qu'on est en train de glisser vers l'état d'exception permanent ? Les états d'urgence sont plus longs qu'auparavant, peut-être moins durs, je ne sais pas, rassurants pour l'opinion peut-être, mais la mutation est telle que les états d'urgence ont rompu le lien avec leur raison d'être qui est l'urgence.
Et l'urgence est maintenant fait tellement partie du quotidien. L'ensemble de nos législations maintenant sont adoptées en urgence. Je pense que les événements en France récents non seulement montrent bien comment cette rhétorique de l'urgence nous sort des procédures démocratiques. La démocratie, normalement, justement, c'est le temps du débat et ça s'oppose à l'urgence. Si on fait le parallèle avec les années 20-30, il y a eu une première mondialisation des états d'urgence dans ces années-là, au sortir de la Première Guerre mondiale, qui était beaucoup moins, évidemment, beaucoup moins globale qu'après le 11 septembre. Mais en tout cas, il y avait, avec cette crise économique, la crise de 29, qui était une grande crise économique, il y a eu la généralisation des états d'urgence dans les états occidentaux, avec la généralisation du décret-loi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est dit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni que le Parlement était trop lent pour gérer les urgences économiques et il fallait donc que ce soit le gouvernement qui légifère. Et on est sorti de cette séparation du pouvoir fonctionnel où le Parlement est celui qui légifère et le gouvernement est celui qui exécute. On est passé dans un système où c'est le gouvernement qui légifère et exécute. Et aujourd'hui, encore une fois, effet cliquet, notre mode normal de législation en France sous la Ve République, c'est l'ordonnance, c'est le décret. ce n'est plus du tout le Parlement. Donc on est passé d'un régime où on avait encore un Parlement à un régime où c'est le gouvernement qui légifère. Et peut-être que demain, ce sera également le cas avec une accélération de ce basculement.
Eugénie Mériot, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Vous écoutez RFI, Géopolitique. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Notre invitée est Eugénie Mériot, politiste et juriste, maîtresse de conférences en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, auteur de Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence aux éditions Le Cavalier Bleu. Eugénie Mériot, l'actualité récente a mis les feux sur la Corée du Sud avec une loi martiale décrétée finalement de façon tout à fait temporaire, et c'est heureux, par le président sud-coréen. Qu'est-ce que ce qui s'est passé là vous inspire, et finalement pourquoi ça n'a pas marché ?
Alors, merci beaucoup. C'est évidemment très, très inspirant de parler de ces événements-là. Nous avons en Corée du Sud un pays qui s'est démocratisé à la fin des années 80, d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques en partie. Et c'est un pays qui a adopté un système qu'on appelle semi-présidentiel, même si ça peut être, d'aucuns considèrent que c'est mal nommé, puisque en fait c'est un système présidentialiste. Mais c'est un système qui ressemble très pour très à celui de la Ve République, dans lequel vous avez un président qui est élu au suffrage universel direct dans une élection qui est parallèle à celle des élections législatives qui, elles, élisent donc l'Assemblée, et le Premier ministre est issu de cette Assemblée mais nommé par le Président. Donc on a exactement comme en France, un gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée mais un Président qui, lui, est irresponsable devant l'Assemblée et qui a des pouvoirs qui lui sont propres, très importants, notamment celui de déclarer l'état d'urgence. Alors là, ce qui s'est passé en Corée du Sud, le Président Yoon Suk-yeol a été élu en 2022, et en 2024, il a perdu la majorité puisque les élections législatives ont renvoyé les candidats démocrates, le parti démocrate donc d'opposition à son parti, le parti conservateur, et ont donné une majorité au Parlement à l'opposition. Et donc, il n'a pas pu faire adopter son budget. Et c'est la raison, l'une des raisons que les analystes pointent du doigt pour déclarer cette loi martiale. Évidemment, il a invoqué la menace nord-coréenne. Mais la question, c'était vraiment celle de faire adopter son budget. Et alors, ce qui est aussi fascinant dans cette crise, c'est qu'en quelques heures, les députés de l'opposition, qui avaient une majorité, ont réussi à infliger une défaite à ce président, soutenu par les Sud-Coréens qui ont l'habitude de manifester. Qui ont l'habitude de manifester en masse, qui ont déjà envoyé leur précédente présidente en prison à vie. Donc quand même, on a des Sud-Coréens qui sont très très remontés. Et ce que ça nous enseigne, c'est que finalement, dans ces cas-là, c'est la politique qui s'oppose à la politique. Ce n'est pas le droit. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à croire que, et c'est la fable, moi-même en tant que constitutionnaliste, j'enseigne cette fable à mes étudiants, que la justice constitutionnelle nous protège de l'état d'urgence, en fait. Mais on voit bien que dans ce genre de situation, ce n'est pas la justice constitutionnelle qui protège la démocratie, c'est le peuple, c'est le Parlement, c'est la politique.
Ce qui est plutôt rassurant.
Ce qui est plutôt rassurant, et en fait, l'hypothèse provocante ou la conclusion provocante à laquelle j'arrive dans le livre Géopolitique de l'état d'exception, c'est de dire que finalement, la justice constitutionnelle, dans une certaine mesure, est plutôt l'alibi de l'état d'urgence que la protection des citoyens face aux dérives de l'état d'urgence. Un petit peu comme Michel Foucault avait dit d'ailleurs que la justice était l'alibi de la police. C'est une manière de déguiser ce régime-là de suspension des libertés en donnant avec quelques garde-fous une forme de légitimité, mais qui se révèle illusoire dès lors qu'on est face à des événements véritables de prise de déclaration de l'état d'urgence.
Eugénie Mériot, j'aimerais revenir sur ce qu'on a déjà largement évoqué, mais dans la première partie de l'émission, on l'a dit, l'état d'urgence ou l'état d'exception a d'abord été pensé comme un outil de gouvernance coloniale. Comment la France a-t-elle manœuvré avec cet état d'urgence ou cet état d'exception avec ses propres colonies ?
Eh bien justement, donc comme nous l'avons déjà dit, la France est née dans cet état d'urgence. C'est ce qui permet de sortir de la 4e et d'entrer dans la 5e République. Et cet état d'urgence, il est ensuite à nouveau décrété par le général de Gaulle à la suite du putsch d'Alger. et il est mis en place pendant 2 ans, pendant plus de 2 ans. Donc c'est extrêmement long. C'est un moment où nous changeons de régime, puisque c'est le moment où la France passe d'un régime qui était plutôt parlementaire, avec le président de la République qui était élu par un collège de grands électeurs, à l'élection directe au suffrage universel du président de la République, donc qui change complètement la donne de la Ve République. Donc cet état d'urgence-là, il est à la naissance de la Ve République de 58 comme celle de 62. Et ça, c'est très important de le noter. Et en même temps, je rappelle qu'a été mis en place l'article 16. L'article 16 qui n'a d'autre équivalent dans le monde actuel, dans aucune des démocraties occidentales. Le seul équivalent...
Vous nous le rappelez, cet article 16, que l'article... vous donnez en conclusion de votre ouvrage, me semble-t-il.
Oui, alors l'article 16, il est inspiré de l'article 48 de la Constitution de Weimar. L'article 48 de la Constitution de Weimar, c'est les pleins pouvoirs donnés au président du Reich, et c'est ce qui permettra au président à Hindenburg notamment de nommer Hitler Premier ministre. Donc c'est voilà, j'explique un petit peu plus dans le livre, mais à la fois utiliser des dissolutions et aussi faire adopter des lois sans passer par l'approbation du Parlement. L'article 16 dans notre Constitution, il permet au président de la République non seulement de décréter lui-même l'état d'urgence, c'est-à-dire de s'auto-octroyer les pleins pouvoirs et de prendre toutes les mesures décidées par l'état d'urgence, par l'état d'exception, qui peuvent être des mesures à la fois législatives, à la fois judiciaires. Et dans le passé, lorsque le général de Gaulle l'a fait, eh bien cette décision de l'article 16, d'avoir recours à l'article 16, a été considéré comme un acte de gouvernement par le Conseil d'État, c'est-à-dire que le Conseil d'État a dit « nous ne sommes pas compétents pour contrôler la légalité de cette décision-là ». Et on peut s'imaginer à ce que le Conseil constitutionnel, de la même manière, considère qu'il n'est pas compétent. Donc nous n'avons pas aucun garde-fou pour l'article 16, et je rappelle que par rapport à la dictature romaine, à Rome, le dictateur n'était pas celui qui décrétait la situation d'urgence. Il était nommé par le Sénat qui, lui, avait décrété l'état d'urgence. Et d'ailleurs, au départ, sous la Ve République, c'était le Parlement qui, alors pas pour l'article 16, mais en tout cas pour la loi sur l'état d'urgence, c'était le Parlement qui décrétait l'état d'urgence. Mais justement, De Gaulle a utilisé l'article 16 pour changer la loi sur l'état d'urgence et se donner à lui-même le pouvoir de décréter l'état d'urgence en Conseil des ministres. Donc ce qui s'est passé en 61-62, c'est que nous avions en même temps l'article 16 pendant 6 mois, l'état d'urgence pendant 2 ans, et que l'un et l'autre ont permis de se renforcer mutuellement. Et ensuite, cet état d'urgence et cet article 16 sont restés dans notre législation. L'article 16 n'a pas été utilisé à nouveau, mais l'état d'urgence, lui, oui. Et on peut penser par exemple à 1961, où le 17 octobre, les Algériens sont massacrés à Paris, notamment par, sur ordre du préfet de police Maurice Papon. Donc là, il y a une continuité très très grande avec le régime de Vichy. Et c'était par une déclaration d'état d'urgence, non pas directement sur la loi du 3 avril, mais dérivée, avec un couvre-feu pour les seuls Algériens. Et ensuite, ça a été mis en place de plus en plus fréquemment, d'abord dans les colonies, c'est notamment en Kanaky, en 85, au moment des révoltes en Kanaky. Et d'ailleurs, à cet égard, le Conseil constitutionnel avait été saisi, et qu'avait-il dit ? Il avait dit, il appartient aux législateurs de créer autant d'états d'urgence qu'ils le souhaitent. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons eu la loi sur l'état d'urgence sanitaire, demain, d'autres lois d'état d'urgence, parce que le Conseil constitutionnel a facilité ce processus-là. Ensuite, on a eu Wallis et Futuna, et ensuite les banlieues, donc les populations immigrées, en 2005, la révolte des banlieues, et ensuite 2015-2017, antiterroristes, donc principalement contre les populations considérée comme d'obédience musulmane. Et ensuite, c'est rentré dans le droit commun en 2017 avec la loi SILT. Et à cet égard, Emmanuel Macron avait dit qu'il avait cité Carl Schmitt dans le texte. Donc Carl Schmitt, le juriste nazi de la République de Weimar qui était pro-article 48, est souverain celui qui décide de l'exception. Et dans la Ve République, c'est le président qui décide de l'exception. Et je rappelle qu'en 2024, nous avons aussi eu l'état d'urgence à nouveau en Kanaky, avec l'interdiction généralisée de TikTok, une mesure que seul, me semble-t-il, l'Azerbaïdjan et peut-être je ne sais plus quel autre pays dictatorial a pris à ce jour.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Thank you. est souverain, celui qui décide de l'exception. Je rebondis là-dessus pour revenir, Eugénie Mériot, sur les attentats du 11 septembre. Les États-Unis sont tellement souverains qu'ils réussissent, vous l'avez dit précédemment, à imposer via une résolution du Conseil de sécurité des états d'urgence au sein d'autres pays, pourtant également souverains. Ils ont pu pratiquer disparitions forcées, tortures, pourtant interdites par le droit international. On se souvient des prisons de la CIA, des black sites de Roumanie, en Pologne, en Thaïlande, Afghanistan et bien sûr l'Irak. Est-ce que l'on peut imaginer demain la Chine hégémonique agir de la même manière ?
Alors, je vais venir à cette question tout de suite, mais d'abord, je voudrais revenir sur les États-Unis. En effet, on voit que le droit international produit des effets presque pervers, comme je l'ai déjà montré avec les conventions de Genève qui, en fait, mènent à l'état d'exception interne pour faire du maintien de l'ordre. C'est la même chose avec ce qui s'est passé, par exemple, à Guantanamo. Quel était l'objectif des États-Unis ? C'était de se soustraire aux conventions de Genève, au droit international humanitaire. Donc, on crée des zones de non-droit. Et en fait, il y a toute une série de stratégies d'évitement qui sont créées par les États à mesure que le droit international des droits humains progresse. Et on peut se dire peut-être qu'on peut être optimiste, et je l'ai été très, très longtemps moi-même, même si j'ai abandonné cette position, en se disant que, à mesure que le droit international progresse, les stratégies d'évitement des États, impériaux en particulier, seront de moins en moins efficaces. Et on a vu avec le 11 septembre, ce n'est pas le cas. Guantanamo a pu fonctionner, les black sites ont pu fonctionner avec des zones de non-droit créées par les États. Et d'ailleurs, on pourrait parler aussi de la question des réfugiés. Vous avez une convention qui s'appelle la Convention relative aux droits des réfugiés en 1951, qui a été notamment critiquée par Hannah Arendt parce qu'elle disait que finalement cette convention ne protégeait que ceux qui pouvaient avoir un État, donc, alors que ça porte sur les réfugiés puisque l'obligation pèse sur les États. En tout cas, il y a un principe clé qui est celui du non-refoulement. C'est l'article 33, c'est-à-dire qu'un État, quel qu'il soit, même s'il n'a pas ratifié, même s'il n'est... c'est obligatoire pour tous les États en droit international, il ne peut pas refouler un réfugié ou un demandeur d'asile sur son territoire, le refouler dans un territoire où il risquerait la mort et la torture. Et pour éviter cette obligation-là, les États ont mis en place toute une série de mesures. On l'a vu avec l'Union européenne, notamment avec la Libye en Méditerranée, toutes les manœuvres réalisées par Frontex. Je pense aussi à l'Australie, par exemple, qui a une île loin de ses zones territoriales pour repousser, pour refouler les réfugiés en disant « Ah, mais ils ne sont pas arrivés sur le territoire de mon État ». Donc il y a des stratégies d'évitement très, 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 très perverses qui se mettent en place à mesure que le droit international progresse. Et c'est ça qui, selon moi, est l'une des raisons du pessimisme. Et maintenant pour la Chine. Alors, est-ce que, en effet, est souverain celui qui décide de l'exception ? Ça se vérifie au niveau interne, au niveau national, mais aussi au niveau international. On l'a vu avec les États-Unis après le 11 septembre. Et c'est d'ailleurs toute l'histoire du droit international, finalement, depuis le XVIe siècle. Mais enfin, est-ce que demain, la Chine pourrait déclarer un état d'exception mondial sur la question du réchauffement climatique ? C'est la question provocante avec laquelle je termine le livre. Ma conviction profonde, mais ça peut évoluer, c'est que ce n'est pas là l'intérêt de la Chine qui n'a pas jusqu'alors prouvé qu'elle avait une volonté d'imposition de son modèle au reste du monde, puisque la doctrine officielle est plutôt celle de la coexistence des grandes civilisations. Mais enfin, tout peut arriver demain et c'est vrai que la Chine a de plus en plus des ambitions dans les organisations internationales et c'est par le biais des organisations internationales que certains États peuvent en effet déclarer l'état d'exception, comme ça a été le cas avec les États-Unis aux Nations Unies. Donc, est-ce que peut-être demain, la Chine à l'OMS, on sait que la Chine est vraiment une grande donatrice à l'OMS, est-ce que demain, avec l'OMS qui se dirige vers des régulations, l'élaboration d'instruments de droit à l'image de ce que fait le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment sur la question de l'urgence en cas de pandémie, est-ce que demain, la Chine pourrait le faire ? C'est la question que je pose. Je n'ai pas la réponse. Je pense que non. Mais en tout cas, c'est un sujet à suivre de très près, je pense.
Alors, il y a un politiste australien, Mark Bison, qui affirme qu'il faut restreindre la liberté individuelle pour empêcher les individus de se laisser aller à des comportements anti-écologiques et de les forcer à obéir à des politiques durables. On va laisser les questions environnementales, Eugénie Mériot. Je voudrais qu'on parle d'un exemple d'actualité qui alimente les journaux depuis plus d'un an. C'est le choc géopolitique provoqué par l'attaque du Hamas. Donbass, ce qui a permis de constater que les droits humains constituaient un enjeu central des rapports de force géopolitiques. Mais finalement, il y a un peu deux récits, des crimes terroristes et des crimes de guerre qui s'opposent et refusent de se prendre mutuellement en compte. Comment sortir de l'impasse ?
Alors sur la question israélienne et la question de Gaza, il y a les deux dimensions que j'essaie de pointer dans le livre qui s'imbriquent très très fortement, c'est-à-dire la dimension internationale et la dimension nationale. Et dans les deux cas, il y a une application du droit qui est différenciée en fonction des populations. Et le marqueur, c'est la rhétorique, le discours de la civilisation contre la barbarie. Et en fait, toute l'histoire du droit international général et du droit international humanitaire, c'est-à-dire de la guerre, est fondée sur cette distinction civilisation-barbarie qui justifierait que le droit de la guerre et le droit, les libertés ne s'appliquent qu'aux civilisés et soient suspendus pour les barbares. C'est d'ailleurs aussi la rhétorique des États-Unis. Donc c'est la rhétorique adoptée par Benjamin Netanyahou et on voit bien que c'est un travail conscient pour pouvoir justement ne pas se soumettre au droit international ni aux droits et libertés sur sa propre population. Et ça fonctionne. C'est ça que j'appelle, avec d'autres, la preuve par Gaza, en fait, de l'impasse à la fois de l'impasse de la philosophie libérale, à la fois du droit, des droits et libertés, du contrat social libéral, mais aussi du droit international. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut appliquer de manière universelle ces droits et libertés, y compris à des peuples que l'Occident désigne comme barbares, eh bien, tout s'arrête. En fait, l'ensemble de l'édifice s'effondre. Donc, en Israël, il y a deux régimes. C'est un régime d'apartheid, ça a été dit par la Cour internationale de justice, un régime d'apartheid avec des populations qui sont protégées et des populations qui vivent sous état d'exception permanent. Donc cette dimension coloniale, elle est très 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 nette. D'ailleurs, chez nous, Jean-Marie Tjibaou avait aussi dit « Nous avons toujours vécu sous état d'exception ».
En Nouvelle-Calédonie.
Absolument. Et au niveau du droit international, c'est exactement la même chose, puisque la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et la France, peut-être bientôt suivie par d'autres États européens, en tout cas déjà très suivie par les États-Unis, donc enfin plutôt elle suit les États-Unis, a déclaré ne pas se soumettre à ce droit international. Et en fait, toute la pensée libérale, et c'est aussi dans le livre, c'est une pensée de l'application duale du droit. Pour certains, la dictature, pour l'autre, la démocratie.
Donc libéral, pas pour tout le monde. Eugénie Mériot, en guise de conclusion, est-ce que les droits humains sont condamnés ou au contraire, ont-ils vocation à devenir de plus en plus universels grâce notamment à l'élévation du niveau d'éducation ? Est-ce qu'on va vers une victoire de l'universalisme ou bien, vous l'avez dit, vous êtes plutôt pessimiste ?
Alors les droits humains sont une excellente idée. Le problème vient de leur genèse libérale trop liée à l'impérialisme avec cette invention du sujet, le sujet des droits humains, qui a été pensé comme le propriétaire, l'homme, blanc, occidental, sans aucune dépendance vis-à-vis des femmes qui l'ont élevé, vis-à-vis du vivant qui l'utilise, vis-à-vis de... Donc cette, il est temps, et c'est une critique aussi formulée par de nombreux pays qu'on dit du Sud global, de repenser les droits humains. On peut garder cette idée des droits humains attachés aux personnes humaines. C'est un excellent progrès. Mais en tout cas, de le repenser sur des nouvelles bases avec une conception de l'humain qui soit beaucoup plus en harmonie avec ses dépendances, qui soit beaucoup plus communautaire et qui montre bien qu'il n'y a pas de sujet autonome, individuel, et que l'homme, s'il est pensé comme fondamentalement appelé à dominer. C'est le grand programme cartésien Descartes qui disait « il faut que l'homme se rende comme maître et possesseur de la nature ». C'est le dualisme entre l'homme, la nature, l'homme, le corps, l'homme, la femme. Si on sort de ce paradigme-là, alors on pourra penser des droits humains qui soient véritablement universels. Mais pour répondre à votre question, je pense que la philosophie libérale des droits humains ne s'accorde pas avec l'universalisme, le véritable, parce qu'elle est fondamentalement impérialiste dans sa genèse et dans son application.
Merci Eugénie Mériot. Je rappelle que vous êtes politiste et juriste, maîtresse de conférences en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et votre ouvrage absolument passionnant, Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence, aux éditions Le Cavalier Bleu. Géopolitique était signé Marie-France Chatin avec Cécile Lavolo et Mathias Golchani. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.